Bonjour à tous et particulièrement à ceux que je n'ai pas pu saluer hier soir. Le verset qui nous est proposé à notre méditation, c'est donc cette confession de Saint Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est une confession en réponse à une question préalable que Jésus nous pose tous. Pour toi, qui suis-je? Pour toi, je souligne le toi, cela signifie donc que c'est très personnellement que Jésus s'adresse à moi. Mais il y a aussi le pour toi. Et le pour, ça veut dire quel bénéfice as-tu tiré de la rencontre avec moi? Je suis là pour vous, à votre service. Jésus dit, qui suis-je pour toi? Ce qui veut dire que pour pouvoir répondre à la question de Jésus sur son identité, il faut partir de mon expérience de cheminement avec lui. Et même si c'est un peu objectivant ce que je dis, mais qu'est-ce que j'ai tiré de cette relation avec le Christ? Eh bien oui, posons-nous la question, puisque Jésus me demande, qu'est-ce que je t'ai apporté? C'est à partir du don qu'il me fait que je vais pouvoir remonter toujours plus loin jusqu'à son identité. Saint-Pierre répond avec l'enthousiasme qui le caractérise et qu'on aime bien. Il se lance, le coup de rein, tu es le Christ, le Messie en hébreu. Il répond à partir de son catéchisme. Il répond à partir de l'espérance messianique d'Israël. Et il a bien raison de répondre ainsi. Mais dites, je suis sûr qu'au moment où il a dit ça, notre Pierre s'est dit, mon Dieu, ma réponse est certainement juste, mais je ne suis pas sûr que je la comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus, tu es le Messie? Bien sûr, comme je disais, il avait son catéchisme, toute la tente d'Israël, mais devant Jésus, il s'est dit, ma réponse est trop courte. Il est le Messie. Mais ça ne fait toujours que reculer la question. En quel sens est-il le Messie? Parce que la réponse de Pierre ne provient pas simplement d'une connaissance humaine catéchétique. Elle vient d'une révélation, comme Jésus le lui dit. Ce n'est pas la chair et l'os. Je suis toujours très béni pour les micros, parce que quand j'ai pas de voix, j'aime bien les voir tout près de la bouche. Et ça les tord dans tous les sens. Mais ça ne peut pas non plus être devant mon cahier. Je suis embêtant, vous savez, ma mère. C'est pour ça que la communauté, bien que je m'en aille de temps en temps, ça leur donne de l'air. Ben, ça ne va pas tenir. Hein. Je vais essayer de ne pas y toucher. Mais c'est qui quand c'est une révélation, ce n'est pas de la chair et le sang, c'est mon Père qui est au ciel, qui te l'a révélé. C'est dire si, vous savez, c'est par son propre fond que notre Saint-Pierre a réussi à sortir, enfin, s'il a prononcé, je veux dire, en correspondance à ce qu'il savait, mais le contenu de sa réponse déborde ce dont il avait conscience. Et la suite de l'Évangile va nous montrer que Saint-Pierre, comme moi, et peut-être comme vous, est divisé à l'intérieur de lui-même, et il le sera longtemps, entre une interprétation humaine que je pourrais appeler charnelle au sens de saint Paul, la chair c'est l'homme dans sa fragilité humaine, et une réponse spirituelle, une réponse inspirée, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême, et il nous parle, il nous murmure au secret de notre conscience, Vatican II, Corium et Spes Sanctorum. Comment serait-il autrement? Voyons bien quelles sont les conditions de ce dialogue, parce qu'il s'agit de cela dans notre religion. Il ne s'agit pas simplement d'accepter un dogme établi là. Non, bien sûr que le dogme est utile pour exprimer dans quelques concepts simples, faciles à retenir, le contenu d'une relation entre Dieu et moi. Il y a un locuteur, je parle un peu de linguistique, le locuteur, celui qui parle, c'est le Père. L'acte de parole, c'est l'Esprit Saint. La parole, c'est le Fils. Et le récepteur, celui qui écoute, ça
dans son fait du monde, dites. Et tout ce petit monde doit se comprendre. Alors je reçois le message. Oui, mais c'est un être vivant, c'est une personne, le Fils. Je reçois la parole que le Père me dit dans son souffle d'amour, l'Esprit. Je le reçois, moi. Vous avez compris que je le reçois, allez du latin, ad modum recipientis. Je le reçois de la manière dont je suis disponible à l'accueillir. Je reçois selon ma capacité d'accueil. Et il ne peut pas en être autrement, c'est pas un reproche. Mon cœur est ce qu'il est, il s'est ouvert peu à peu, c'est le fruit de ma croissance humaine, spirituelle, de mon cheminement avec Jésus. Et ce qui veut dire que ma compréhension de la révélation, c'est-à-dire de ce que le Père me dit dans son Fils, dans le souffle de l'Esprit, évolue sans cesse. Sans cesse, je recommence à écouter. Nous sommes là pour cela, pour de nouveau me mettre en chemin, accueillir davantage. Pour vous, qui suis-je? Pourrions dire, bon, mais Jésus, j'ai répondu quelquefois, hein, c'était pas une autre question. Non. Aujourd'hui, ma réponse ne peut pas être la même que hier, parce que ça voudrait dire que je n'ai plus avancé, que je ne suis non plus en quête, que mon désir s'est éteint. Dans l'amour, si le fiancé, ou plutôt l'épouse, dit à son époux, qu'est-ce que qui suis-je pour toi, du coup, la même que hier, et de ouh, là, tout son amour est occupé à mourir. L'amour s'émerveille tous les jours devant la nouveauté, l'amour à l'éternelle jeunesse de l'esprit. Et sans cesse, nous repartons sur notre route. Alors là, c'est un peu le thème, dit d'une façon plus existentiellement abondante, de ce qu'on appelle le cercle herméneutique. Waouh, que ça court. Pour accueillir Jésus, pour le connaître, je dois d'abord lui donner un minimum de confiance. Au début, on lui dit, qui c'est celui-là? On garde la distance. Moment en cause, on se laisse rapprocher. Pour connaître Jésus, je dois ouvrir mon cœur un tout petit peu au moins à la foi. Vertu théologale, don de l'Esprit Saint, seul l'Esprit peut me conduire dans la vérité qui est en Jésus. Mais si je m'ouvre un petit peu, d'accord, allez, je vais t'écouter, on va faire un bout de chemin. Du coup, cette lumière illumine mon cœur, mon intelligence aussi, mais aussi mon cœur réchauffe, mon petit glaçon là, hein, ou bien mon cœur de pierre se liquéfie, Ézéchiel 36. Et je me dis, mais c'est intéressant ce qu'il me raconte. Et je commence à comprendre. Et comme je comprends, je dis, mais t'en as pas un peu plus d'informations, Esprit Saint? Je m'ouvre plus à la foi. Et ainsi, il y a ce qu'on appelle le cercle herméneutique. J'ai besoin de croire pour comprendre, et la compréhension me fait ouvrir mon cœur à la foi. Et je continue, je grandis. C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Ma foi évolue, elle est éminemment personnelle, puisque ma capacité d'accueil dépend de mon cheminement personnel avec Jésus. Donc il est normal que nous soyons tous à des lieux différents, des points différents de notre cheminement. Simplement, ce que nous devons faire, c'est vérifier, est-ce que ma foi est bien orthodoxe? C'est-à-dire, ce que je crois découvrir de Jésus, est-ce que ça correspond à la réalité? Ça, nous avons une chance extraordinaire, nous catholiques, c'est que nous avons une référence, le magistère. Vous savez, la révélation, ce n'est pas simplement l'écriture. C'est l'écriture, la tradition et le magistère. La tradition, c'est l'ensemble des interprétations des écritures qui, pour nous, sont normatives. C'est les saints docteurs jusqu'au, disons, grosso modo, 5e siècle. Mais il y a aussi le magistère qui interprète dans le même Esprit Saint qui a inspiré les hagiographes, ceux qui ont écrit les écritures, qui interprètent, qui aujourd'hui éclaire le magistère pour que notre interprétation aujourd'hui soit juste, soit cohérente et nous donne de rejoindre la source, Jésus. Alors, nous allons donc faire un petit travail de vérification. Tu es le Christ, le Messie, très bien. Qu'est-ce que c'est le Messie? Ah oui, pardon, je ne suis plus dans le midi. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, hein? C'est du patois du méridional. Alors, le Messie dans l'Ancien Testament, c'est le moi. C'est un verbe difficile à utiliser en français. Moindre, c'est mettre l'huile de l'onction. Dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, Dieu choisit des hommes pour leur confier une mission particulière, une mission en vue de laquelle ils sont revêtus ça dit bien ce que ça veut dire, enveloppé par l'onction de l'Esprit Saint, qui est en même temps illumination de l'intelligence, force de la volonté et onction du cœur, amour. Ils ont besoin de cette onction pour être fidèles à celui qui les a envoyés, parce que cette onction qui les révèle fait du roi un plénipotentiaire, un porte-parole plénipotentiaire, il a pleine puissance. Donc sa volonté doit être renouvelée. Un porte-parole, son intelligence doit être renouvelée pour ne pas trahir le message. Le prêtre est roi, je ne vous trouve pas les références, vous les connaissez bien. Le prophète est roi, mais surtout le roi est roi d'un pouvoir divin. On l'a dans les psaumes, on l'a dans le livre de Samuel, le roi du Seigneur est une expression très courante. Le roi est, au sens propre du terme, le lieu tenant, celui qui tient lieu de et qui est investi de tous les pouvoirs de celui qui l'envoie, un alter ego de Dieu. Je souligne pour dire l'importance de cette mission. Jésus est le roi, nous dit Saint Pierre, le Messie. Très bien. En quel sens est-il revêtu de la toute-puissance, etc., de ce que je viens de dire de Dieu? Mettez-vous à la place de Pierre. Nous pouvons, aussi certains anciens, mais bon, l'histoire nous apprend combien il est dur d'être dans un pays occupé. Occupé par l'ennemi. Il n'y a rien de plus haï que l'ennemi qui nous occupe. Non seulement parce que l'invasion a fait des morts, etc., prive de liberté. Essayons de nous mettre un instant dans cette position d'un Pierre qui n'aspire qu'à une chose, que le pays soit libéré de l'occupant romain et qu'enfin la royauté davinique puisse être réinstaurée, dites. Que nous puissions vivre selon le projet de Dieu en toute liberté dans ces terres de lait et de miel. C'est difficile pour Pierre de ne pas imaginer un Messie de Dieu, certes, mais du Dieu Adonai, n'est-ce pas? Le Dieu Adonai, c'est le chef des armées célestes. C'est la toute-puissance de Dieu devant qui tout le monde, tous les ennemis tremblent. On a assez de références de l'Ancien Testament pour cela. Peut-être que nous aussi, nous avons dans notre cœur cette attente qui est le Messie. Et maintenant, mes ennemis vont voir ce qu'ils vont voir, parce que Dieu fort est avec moi. C'est pas faux. Et simplement, il faut voir en quel terme sont nos forces utilisées et ce que les ennemis vont voir. Le plus surpris, c'est peut-être moi, de la façon dont le Seigneur traite mes ennemis, lui qui m'invite à les aimer davantage, précisément parce qu'ils m'aiment moins et qu'ils ont plus besoin d'amour. Mais j'anticipe ce que je suis occupé à essayer, bon, pas de dénoncer, mais à nous inviter à être vrais devant le Seigneur. Pour vous, qui suis-je? Allons voir un peu du côté de ces attentes cachées d'un Dieu bouche-tout qui vient supplier à mes impuissances, mes manques, éventuellement, comme je disais, qui se venge de mes ennemis. Attention, car lorsque l'épreuve vient, la mise à l'épreuve éprouvée, ma foi comme l'or au creuset, quand l'épreuve vient, eh bien, ce Dieu tout-puissant, je regrette, je peux vous annoncer d'avance, il ne sera pas au rendez-vous. Parce que justement, l'épreuve est là pour ajuster mon cœur au sien, et non pas ajuster le cœur de Dieu à mes désirs, non pas manipuler Dieu pour qu'il fasse ce que je veux. Vous vous rappelez ce que je disais hier soir? Ça, c'est l'ordre du pouvoir sur Dieu, c'est pas l'ordre de l'Évangile. Alors, est-ce que si je suis dans l'épreuve et que j'ai une telle image de Dieu, je risque de faire comme les fils d'Israël au désert, de murmurer? Je risque de me révolter. Ben, si c'est comme ça, si j'intéresse pas plus Dieu que ça, bien, il peut aller voir autre part. Ou bien il est tout puissant et je ne l'intéresse pas. Ou bien il n'est pas tout puissant et il ne m'intéresse pas. Dans les deux cas, on a rendu son ticket à Dieu. Il y a un malentendu. Et bien sûr qu'il s'agit de se repentir. Mais ce qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que d'autres l'ont fait avant nous et qui ont reçu la miséricorde de Dieu en surabondance. Donc il s'agit de vite revenir, de prendre conscience de ce qui nous empêche de nous jeter dans les bras de Dieu. Ce sont des désirs déplacés parce qu'on n'a pas compris la plénitude du message. Judas, pourquoi a-t-il trahi Jésus? Sinon parce qu'il était déçu
dans son attente.
Et il n'a pas suivi le maître.
Nous pouvons, comme Pierre, faire une confession de foi tout à fait vraie. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais son contenu n'est peut-être pas ajusté à ce que nous lisons. Nous savons bien, je reviendrai, Pierre a trahi lui aussi. Parce que lui non plus, il n'avait pas tout à fait compris. Mais si Pierre n'a pas compris, je suis sûr que moi non plus, je n'ai pas pleinement compris. Et donc j'ai enlevé le sable là de mon cœur qui empêche Dieu de le remplir et qui sont ses attentes déplacées. Je te redis encore une fois, l'un Dieu Tout-Puissant qui nous protège tous nos déboires, qui se venge nos ennemis, qui nous bénit en multipliant nos récoltes, peut-être plus que nos voisins, qui écarte les souffrances et les épreuves, ce n'est pas notre expérience. Mais non, le chrétien n'en a pas moins que les autres. Sainte Thérèse d'Avila avait le mal de mer. Alors on peut avoir le mal de mer même dans une carriole. Un jour qu'elle visite une de ses malades, de ses maisons, et il pleut des cordes, elle a le mal de mer, elle arrête le cocher. Elle descend précipitamment parce qu'elle devait vomir, elle rate la marche, elle s'étale par terre dans la boue, dans une flaque d'eau. Elle se relève péniblement, elle dit, Seigneur, si c'est comme ça que tu traites tes amis, je comprends que tu n'en es pas beaucoup. Hein. Le jour où mes attentes sont contredites, je risque de dire, Dieu m'aurait-il oublié? À quoi bon prier? À quoi bon croire puisqu'il ne m'écoute pas? Je risque d'en vouloir à Dieu. Oh, je ne vais pas le dire explicitement, mais dans ma prière va devenir formelle. Bon, je vais lui donner ce qu'il a besoin, son petit coup d'encens, hein, maintenant. Hein. On verra la semaine prochaine. Nous sommes en difficulté, en danger. Et nous n'en rendons pas compte parce que nous n'osons pas faire la vérité sur les reproches que nous adressons secrètement à Dieu. C'est terrible, c'est hypocrite sans le savoir. Mettez-vous à votre chaise devant le Saint-Sacrement et dites, moi c'est ainsi que je fonctionne, Seigneur, j'ai deux mois à te dire, ça va plus. Le Seigneur dit, mon Joseph Marie n'est pas content, ça va barder. Et je lui dis ce que j'ai à lui dire. Puis ça va mieux, je suis calmé, je lui dis maintenant à toi la parole. Jusqu'à présent, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Au moins, on peut se parler en vérité. Mais ne restons pas avec des rancœurs contre Dieu. Parce que je sombre dans le doute, je me décourage, désespère, et je prends la distance. Il me faut donc apprendre à cheminer derrière Jésus. Et spontanément, je me mets devant. Seigneur, assieds-toi dans ton grand fauteuil, là, tu vas voir comme je me débrouille bien. Et j'ai souvent, en tout cas dans ma vie, c'était le cas, prendre quelques platanes à 200 à l'heure avant de se dire... Joker, je suis au secours, je ne peux plus, mais j'y arrive plus. Mais n'est-ce pas notre réflexe à tout spontané de garder l'initiative, c'est quand même plus sûr, hein, parce qu'avec le bon Dieu, on ne sait pas trop. Et d'un coup, on marche devant et pas derrière Jésus. Or, vous connaissez la suite. Pierre vient de dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus l'a félicité, c'est le Père des cieux. Oh, ça y est, Pierre est sûr hein, de son coup. Là, il a déjà en poche le portefeuille du premier ministre dont le gouvernement Jésus va instaurer, peut-être même le portefeuille du ministre de l'Intérieur. Et quand Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'est-ce que c'est ça? Non, pas Jésus. Il n'a même pas entendu la fin, meurt, et le troisième jour, Jésus n'a pas entendu. Il vient à côté de Jésus, il met sa main sur l'épaule, il dit, non, écoute, maintenant que je suis le premier ministre, conseille-moi, l'accord c'est moi, laisse ces affaires-là à toi, tu prêches et moi je m'occupe de la sécurité. D'accord, vous connaissez la suite. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des âmes. Bon, je le dis en rigolant, mais moi ça me bouscule, vous savez, sincèrement. Hein. C'est combien de fois Jésus ne m'a pas dit dans ma vie, mais je n'ai rien entendu, j'ai un peu dur de la feuille. Passe derrière moi, Satan. Ouh. Et oui. Il faut humblement consentir à une catharsis de nos désirs inavouables, et pour ça ils doivent donc être avoués. Nos désirs, qui sommes, qui es-tu pour moi, Jésus? Et peut-être oser dire ce qu'on n'ose pas lui dire. Ben oui, j'espère aussi ça, je croyais. Espoir, espérance, c'est pas la même chose. L'espoir, c'est ce qui vient d'en bas. Sur toi, désir inavouable. Qu'avec toi, il y aurait de l'avoir, du pouvoir et de la gloire. Oh, pour le bien de tous, bien sûr, pouvoir pour faire du bien et de la gloire, pourtant, oui, de l'avoir, du pouvoir et de la gloire. Le vieil homme se mêle dans ma vie spirituelle et essaie de se récupérer juste par les choses religieuses. Et tout cela doit passer par le creuset
purifiant de la croix. Et sur ce chemin-là, je peux le dire au pluriel, sommes des aveugles. Après tout ce que j'ai dit un soir, depuis ce fameux triste matin brumeux de Genèse 3, on est tous dans la nuit. Il s'agit de crier comme Bartimée, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je ne vois rien, je prends des vessies pour des lanternes, mes désirs sont ambigus, purifie tout ça. Attention, il le fait. Il le fait, mais il le fait avec douceur. Il n'arrache pas, il n'étouffe pas la flamme qui brûle encore. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le verset qui fume, qui brûle encore. Non, il n'écrase pas, mais il le fait. Il va nous purifier, ça va faire un peu mal, de ce faux espoir pour entrer dans l'espérance qui ne déçoit pas, car l'Esprit Saint a été versé dans notre cœur. Il nous donne déjà part à cet esprit filial qui crie à bas. Mais il faut passer par cette libération des faux semblants en nous. Tout au long de notre chemin, nous sommes sans cesse dans cette alternance. Il y a la parole qui vient d'en haut, la parole de Jésus qui est lumière. Et la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reconnue, prologue de Saint Jean. Et oui, parce que moi, je suis dans les ténèbres. Et il y a une parole d'en bas de l'être charnel, le discours humain, même un discours humain sur Jésus qui m'habite et qui se confronte. Vous, vous jugez de façon purement humaine, dit Jésus au chapitre 8, terrible chapitre de Saint Jean. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. On doit dire, mais Jésus parle aux pharisiens, les méchants, etc. Hein? Non, regardez le premier verset de ce chapitre 8, il m'a fait trembler. Jésus s'adresse à ces juifs qui maintenant croyaient en lui. Oups, ça change tout ça. C'est à moi que tu parles, Jésus. Joseph-Marie, tu es d'en bas, moi je suis d'en haut. Si je me rebelle, mais non, pas vrai, Jésus. Jésus retire, si je dis oui, Jésus, je suis d'en bas. Viens comme une rosée, je suis nourrir, abreuver, féconder cette terre desséchée. Oui, j'ai un cœur de pierre. Viens me donner ton cœur de chair. Viens verser cet Esprit Saint que je puisse rentrer dans ton projet. Consentir, reconnaître à la lumière de la parole que nous sommes d'en bas. Vous savez, il y a un discours du monde qui, depuis les origines, nous montre la création, vous avez été désirable et bon à manger. Ça, c'est le monde, les fruits de l'arbre, que nous voyons tout à coup, que nous ne voyons plus à la lumière de Dieu, nous ne les voyons plus remplis de cette lumière divine. Comme on disait dans la prière, il ne s'agit pas de sortir de soi, il s'agit de trouver celui qui illumine mon cœur pour que tout mon être soit illuminé. Au fond, c'est ça la véritable orientation du commencement. C'est la lumière de la grâce qui éclaire mon intelligence, fortifie ma volonté, me donne la maîtrise sur mes passions et met mon corps au service du projet de Dieu. Donc, jusque dans la louange, je mets mon corps au service du projet de Dieu, qui est avant tout l'adoration, et je l'élève. Mais le mouvement vient du profond du cœur, car c'est là que l'Esprit Saint est hôte de mon cœur. Alors, il s'agit de passer de Jésus, fils de Joseph, ou Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Joseph, c'est le discours d'en bas. Jésus, fils de Dieu, c'est le discours d'en haut. Et ce qui me bouleverse dans le Bartimée, aveugle, demande à celui qui passe, c'est qui ça donc qui passe là-bas? On lui répond, c'est Jésus de Nazareth. C'est un aveugle qui parle. Jésus, celui qui dit Jésus de Nazareth, ne connaît Jésus que par son origine géographique. C'est un voyant, selon le monde. Et l'aveugle dit Jésus, fils de David. L'aveugle voit plus clair que le voyant. Ce reste donc qu'il faut fermer les yeux sans les séductions de ce monde pour voir en vérité. Laissons-nous illuminer par cette parole qui va plus loin que nos évaluations humaines. Le croyant selon le monde est un aveugle pour Dieu. Et Bartimée était sorti de Jéricho, la séduction du monde, s'était mis en route, mais il a besoin d'un guide. Mais il avait compris que le monde est illusion et qu'il faut être illuminé pour qu'il prenne son sens dans le dessein de Dieu. Le monde n'est pas une illusion, c'est découpé de la lumière, l'illusion.
mais doit prendre son sens dans le dessein de Dieu. Et oui, les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y en a un affrontement qui nous empêche de faire ce que nous voudrions. Vous avez reconnu Galates 5, 17. Et c'est de moi que parle Paul. Je peux aussi citer Romains 7, c'est toujours Paul, dans lequel il ne parle pas seulement de son cas personnel, il parle d'une humanité qui a quitté Dieu par le péché, qui péniblement revient sur le chemin de la vérité et de la vie, lorsqu'il dit « Je ne comprends pas ce que j'accomplis, car ce que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je réalise, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Quel malheureux homme je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» Romains 7, 24. Qui ne se reconnaît pas dans cette phrase-là. Nous souffrons de l'inertie de notre chair qui nous rive à la terre par les concupiscences, comme dirait saint Thomas, par les convoitises de la chair, mais aussi, c'est plutôt à ce niveau-là que nous sommes, par le faux regard, les fausses ambitions, les faux espoirs que nous projetons sur le Christ qui vient d'en bas. Oui, nous sommes ainsi dans cette ambiguïté. Mais avec Jésus, avec saint Paul, nous pouvons, nous devons ajouter. Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car en me faisant passer sous la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus, il m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. C'est l'articulation du chapitre 7 et du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Où après ce coup, apparemment, de déprime, on se dit, on n'en sortira pas. Il exulte de joie parce que l'Esprit Saint qui vient d'en haut m'introduit dans la vérité tout entière du Christ et illumine ses ténèbres d'en bas, dénonçant mes mensonges et mes faux espoirs pour m'introduire dans la vérité et l'espérance qui ne déçoit pas. Alors, c'est donc la parole de Dieu qui ouvre nos yeux. Ce discernement de la messianité de Jésus est essentiel car de là dépend notre salut. Il s'agit donc de nous convertir aux mœurs de Dieu, à la messianité de Dieu. Le Messie, c'est le terme de l'espérance, celui qui va combler toutes nos espérances, mais pas nos espoirs d'en bas. Combler nos espérances. Qui suis-je pour toi? Quelle est l'espérance que j'ai comblée? Et peut-être qu'il faut d'abord avouer les espoirs que Jésus a déçus, reconnaître là qu'on n'était pas sur le chemin de l'Évangile pour nous ouvrir à la véritable espérance. Alors prions, Seigneur, convertis-moi. Convertis-moi que je vois la puissance de ton amour, non pas dans mes imaginations d'un Adonai qui vient avec toutes ses troupes là-haut pour détruire mes ennemis, piétiner les adversaires, non, mais qui vient dans la vulnérabilité d'un agneau qui m'invite à aimer mes ennemis, à bénir ceux qui me maudissent, qui m'invite à jubiler de joie dans la persécution. Un agneau qui lui-même ne va pas hésiter à donner sa vie pour ses ennemis, à invoquer le pardon sur ses bourreaux. Et c'est ce que Paul dira, la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a livré son Fils alors que nous étions ses ennemis, coupable du péché. Osons rentrer dans ce mystère du chamboulement. En hébreu, la conversion, c'est choub, retournement, chamboulement, carrément tête bêche. Tellement Jésus, c'est pourquoi il a tant de patience avec ses disciples. Il sait qu'il affronte frontalement, oui, nos espoirs humains et que la catharsis sera dure. Pourtant, c'est la condition du salut. Les 144 000 qui ont le nom de Dieu écrit sur leur front, que chantent-ils? Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Personne ne peut apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés des hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irrépréhensibles. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tiennent debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs. Ils proclament d'une voix forte.
Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. Tous les anges qui se tiennent en cercle autour du trône, autour des anciens et des vivants, se prosternent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disent « Amen ». Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui s'étient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chantons, frères et sœurs, chantons un refrain sur cette gloire de l'agneau, que ce soit la lumière de cette plaie, de lui, l'humble, doux et humble de cœur, qui éclaire notre cœur, qui dénonce nos faux espoirs, pour que nous puissions pleinement accueillir l'espérance qu'il veut y déverser.
Page 238. Béni soit celui qui vient sauver le monde, le Christ, l'agneau de Dieu, le roi de l'univers. Gloire, honneur et puissance à l'agneau vainqueur pour les siècles des siècles.
Il nous faudra tout reprendre à zéro. Il nous faut contempler Jésus avec ce regard-là pour nous laisser convertir à lui. Je dirais, il nous faut commencer à zéro et demander à Jésus qu'il nous fasse découvrir depuis la crèche jusqu'au Golgotha ce visage de l'agneau vulnérable. Il faut demander la grâce d'être séduit par la beauté de l'enfant et du crucifié, par la beauté d'un Dieu qui se livre. Être séduit pour que nous puissions l'aimer, car seul l'amour nous unit à lui. Et c'est cette union qui va éveiller en nous le désir de lui ressembler. Et si nous désirons lui ressembler, nous ne tendrons plus la main vers la voir, la gloire et le pouvoir, parce que nous voudrons être comme toi, Jésus. Vous savez, c'est aujourd'hui Saint Ignace de Loyola. Ce que je vous dis ici, c'est un peu la démarche de ces exercices. Rentrer dans cette... Nous laisser séduire, convertir l'intelligence, la volonté, mais il faut que la fine pointe du désir s'attache à Jésus, de sorte que nous voulions être pauvres avec Jésus pauvre. Non pas que nous aimions la pauvreté, mais nous aimons Jésus qui est pauvre, et je veux être avec lui. Aimer Jésus, l'humiliation, aimer Jésus humilié, on n'aime pas les humiliations, mais on veut être avec Jésus humilié pour être proche de lui. C'est cela, nous ne méprisons pas les choses de ce monde, mais nous voulons être avec Jésus tel qu'il l'a vécu au milieu de nous. Là, nous ne nous trompons pas. Et c'est ainsi que nous allons peu à peu lâcher tout ce qui n'était pas des désirs venant de Dieu. Et que nous arriverons à cette sainte indifférence ignatienne pour moi, Seigneur. Je ne veux ni les richesses ni la pauvreté, je te veux toi. Je veux ce que tu veux pour moi, pour être avec toi. Je ne veux ni la santé, ni la maladie, je te veux toi. Je veux ton projet sur moi, je veux que tu puisses vivre en moi tel que tu l'entends. Si tu me veux en bonne santé, très bien. Si tu me veux mal, très bien. C'est toi qui es mon trésor.
C'est cela la grande liberté des enfants de Dieu, qui ne désirent rien d'autre que ce que Jésus veut et qui le laisse accomplir sa volonté en nous. On ne peut plus rien nous prendre puisqu'on a tout donné, mais on laisse Jésus le donner à travers nous. Alors contemplons cet agneau dans la crèche. C'est déjà, vous savez en hébreu, il y a un jeu de mots sur l'enfant et l'agneau. C'est déjà lui. Lorsque dans la nuit de Noël, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, c'est pas un tout-puissant, hein? C'est pas un roi selon le monde. Hérode, dans son palais, n'a pas voulu accueillir, bien sûr, ça c'est l'image. C'est pas un roi tel qu'Hérode, c'est un roi humilié, humble, dans une crèche entre deux animaux. Un roi qui naît dans une famille pauvre, démunie, qui n'avait pas de place pour eux dans le caravansérail. C'est tout cela qu'il faut laisser naître dans notre cœur. C'est un enfant de basse condition qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et lorsque les mages de l'Orient viennent, chapeau pour eux, hein, viennent adorer un enfant d'aussi basse condition, eux qui sont des rois et des prêtres dans leur culture, et qu'ils viennent lui offrir de tels trésors, ah mon Dieu, ils resteront nos modèles jusqu'à la fin des temps. Quelle humilité! La vérité compte plus pour eux que la gloire du monde. Cette vérité qu'ils reconnaissent en Christ. L'humilité, c'est de faire la vérité, ou plutôt laisser la vérité m'instruire et me conduire. Cette vérité qui est en Jésus, dans cet enfant. 30 années de vie cachée, d'enfouissement dans la pâte humaine, d'une vie banale comme la nôtre, pour que la nôtre ne soit plus jamais banale, puisqu'elle est habitée par le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il n'a pas voulu pour autant être roi ou président ou que sais-je, mais non, il s'est conclu à vivre notre vie. 3 années de vie itinérante, durant laquelle le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer la tête, mangeant ce qu'on lui donne, c'est-à-dire vivant de mendicité, dormant à la belle étoile, chassé de certains villages, Chorazine et Bethsaïde, obligé de fuir les foules qui veulent en faire leur roi selon le mode humain, selon l'espoir humain. Mon Dieu, entouré de 12 disciples qui n'ont pas compris grand-chose, il leur faudra la Pentecôte pour comprendre. Qu'est-ce que Jésus est seul? Et saint tous les mystiques nous le disent, combien il a été seul toute sa vie. Il y a eu Marie et Joseph, puis Marie toute seule, puis le disciple que Jésus aimait, qui heureusement n'a pas de nom, qui a posé sa tête sur son cœur, qui a été fidèle jusqu'à la croix. Heureusement qu'il n'a pas de nom, parce que nous sommes tous invités à inscrire notre nom. Jésus, tu étais horriblement seul. Est-ce que tu me permets de venir auprès de toi, de consoler ton cœur dans cette solitude? Alors comment faire? Eh bien, en devenant comme lui. Si j'arrive, le voir regarder le jeune homme riche, puisque c'est beau dans Marc, Jésus posa son regard sur lui, se mit à l'aimer. Waouh, qu'est-ce qu'on voudrait être à la place? Mais il nous aime comme la même façon. Mais malheureusement, le jeune homme riche en va, voyez, avoir, pouvoir, gloire. Il était trop riche pour pouvoir suivre. Il faut devenir comme Jésus. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Parce que là, alors, oui, tu auras le plus pauvre des pauvres. Celui qui a pris la dernière place pour qu'aucun ne soit exclu, c'est Jésus. C'est en étant comme lui que nous pourrons alors, en adoptant ses mœurs, en laissant l'Esprit nous conduire à cette identification au Christ, en Christo, dit Paul, en Christ, que nous pourrons consoler son cœur et le consoler de cette solitude. Mais que voulez-vous? Il est le Christ, l'unique. Il accomplit une espérance, mais au-delà de ce qu'elle annonçait. Donc il devait forcément être tout seul. Il est la parole unique qui vient dire, qui est l'expression totale du dessein de Dieu. C'est trop grand pour notre pauvre cœur. L'Église, jusqu'à la fin des temps, c'est ça la tradition, hein, l'Église vit depuis le commencement du mystère du Christ qui lui est donné. Mais il nous faudra jusqu'à la parousie pour expliciter ce qui est contenu implicitement dans le don que Dieu nous fait dans son Christ. Nous continuons à vivre, à puiser, à creuser ce mystère insondable. Alors Jésus est loin comme roi. Bien, j'approfondis un peu puisqu'il y a 3 onctions. Je commence par la royale puisqu'elle est la plus importante dans la tradition. Et je vais essayer de vous montrer comment dans chacune de ces onctions, il accomplit l'espérance d'Israël, mais d'une façon paradoxale. Doxa, c'est l'opinion,
ce qu'on pensait du Messie. Para, c'est au-delà. Paradoxal, ça veut dire d'une façon qui est en continuité seule, mais la discontinuité est tellement grande qu'on reste bouche bée. Et on se rend compte qu'il faut partir, non pas de rien, mais qu'il faut ouvrir ta bouche, moi j'en prierai, dit le psaume. Hein. J'aime beaucoup cette image. Hein. C'est comme un enfant qui va téter le sein de sa mère. Ouvre la bouche et hop, le sein est dedans. Mais c'est ça. On doit vraiment se laisser nourrir d'en haut. On est né d'en haut, on est des petits enfants, comme dit saint Paul. On a besoin du lait de la parole et de la tendresse de l'esprit. Et il faut repartir de là, sans quoi nous n'y arrivons pas. Alors, prenons ce roi d'humilité. Ce roi, la première onction visible, c'est dans le baptême du Jourdain, bien sûr, auquel il se soumet humblement. Là aussi, il se met dans la ligne des pécheurs, et j'imagine à la dernière place. Si vous voulez vivre cette méditation d'une façon jardinienne, c'est-à-dire en vous représentant, moi j'aime bien d'avoir que je suis un petit bonhomme et je mets la main à Jésus. Jésus, où tu vas? Et Jésus prend la place dans la ligne des pécheurs et il m'explique. Voilà, tu vois tous ces pécheurs, toi aussi, et bien j'assume cette humanité. Je vais prendre sur moi. Jésus est occupé à expliciter ce qu'il va faire. Il va prendre sur lui notre humanité en toutes choses sauf le péché, comme dit la prière eucharistique numéro 4, se charger toutes ses conséquences. Et il va se plonger dans l'eau, symbole de la mort. Il en aura jusqu'au-dessus de la tête. Et puis, il va sortir de l'eau, symbole de la résurrection. Mais attention, n'oublions pas que le Verbe s'est fait chair de notre chair. Pour la plonger dans cette eau purifiante, il est descendu dans notre mort. Pour nous entraîner dans sa résurrection de Fils unique de Dieu. Donc quand il se lève au matin de Pâques, il entraîne dans ce corps de gloire tous ceux qui ont cru en lui et par la foi se sont intégrés dans ce corps. C'est pour moi qu'il descend dans les eaux du baptême et dans les eaux de la mort pour que moi je puisse participer à la vie de celui qui a pris, à la nature divine de celui qui a pris ma nature humaine. Et donc il sort de l'eau, le ciel se déchire, l'Esprit Saint descend sur lui comme sous forme d'une colombe. C'est déjà la Pentecôte anticipée. Et une voix, celle du Père, dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est donc à moi que le Père s'adresse. Bien sûr, c'est à Jésus d'abord. Mais Jésus a pris mon humanité pour que je puisse entendre le Père me dire « Tu es mon enfant bien-aimé ». Mais il s'agit d'aller humblement dans cette ligne de pécheur, de consentir à recevoir la plénitude des grâces et ce baptême. Le christianisme, c'est toujours plus libérer la puissance d'amour de l'Esprit Saint reçu au baptême pour qu'il envahisse toujours plus ma vie et que je puisse en vérité dire « Abba, Père ». Comprenez donc ce... Alors Jésus va continuer toute sa vie à montrer ce chemin d'humilité. C'est vraiment paradoxal. Vous rappelez un des passages sans doute le plus bouleversant de tout l'évangile, c'est lavement des pieds. Jésus qui met un tablier, qui prend une bassine, et heureusement qu'on a encore notre Pierrot là, notre Pierre qui parle à notre place. Tu vas me laver les pieds, Jésus, mais jamais. J'aime bien méditer cette passage en le se représentant, en faisant appel à notre imagination, etc. C'est la méthode ignatienne hein, pour entrer dans la scène, sans quoi nous allons discourir sur Dieu. Pour qu'il y ait une vraie relation, je dois être engagé avec ma chair, mon corps, mes sens, autrement on fait de l'intellectualisme. Mais si je suis vraiment dans la scène, parce que je me laisse lui représenter en convoquant tous mes sens et mon imagination, alors je rentre dans la scène, mais je suis sûr que l'on fait tous comme Pierre, on retire ses pieds, on dit non, Jésus, c'est pas possible. Il y a un bug là, c'est pas... Toi, Dieu, mais non, tu es Dieu, Jésus, c'est pas possible, c'est l'homme qui sert Dieu. C'est l'homme qui est à genoux devant Dieu, et pas Dieu à genoux devant l'homme. Et Jésus me répond, si je ne te lave pas les pieds, si je ne te sers pas ainsi, tu n'auras pas de part avec moi. Étonnant renversement. Attention, il faut revisiter notre catéchisme tel de celui de Saint-Pierre, hein, que nous avons construit nous-mêmes, hein. Nous sommes prosternés devant Dieu. Et c'est Dieu qui est à genoux devant moi pour me laver les pieds. Quel bouleversement, quelle humilité. Dieu est assez puissant pour pouvoir s'abaisser devant moi sans que cela n'entache sa gloire, bien au contraire, car c'est la gloire, la toute-puissance et l'amour. C'est ça que Jésus veut nous apprendre. Alors accueillir c'est cet aspect paradoxal de la foi, ce qui ne veut pas dire que je ne vais plus me prosterner devant Dieu. Oh, c'est peut-être à ce moment-là que je vais vraiment me prosterner pour dire, Jésus, tu t'es mis devant mes pieds, mais je veux être moi aussi devant toi ainsi. Il y a une sorte d'émulation de l'amour, émulation de l'humilité, mais il faut d'abord reconnaître cette humilité de Dieu et se laisser envahir par l'éblouissement, la beauté de l'humilité du Dieu tout humble. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Et c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Ah mon Dieu, qu'on est loin de l'avoir, de la gloire et du pouvoir, là. On est humblement prosterné aux pieds de nos frères pour laver les pieds, parce qu'en eux, je reconnais aussi le Christ. Et à Jacques et Jean, ah, la maman qui veut que ses garnements soient bien situés dans le prochain ministère de Jésus, hein, c'est exactement ça, hein. Sauf que le premier ministre, c'est Pierre, mais non, c'est bien encore d'autres postes intéressants, comme un des portefeuilles et pouvoir. Je voudrais que mes deux fistons, là, soient à gauche et à ta droite. Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent ton maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et le seul peut être un des rares endroits où Jésus se définit, si j'ose dire. Il nous montre comme je suis douce et humble de cœur. Je suis égoïmie, c'est Dieu. Oui, mais le qualificatif, douce et humble de cœur. Qui me voit le Père. Le Père est donc doux et humble de cœur. Et l'Esprit Saint est doux et humble de cœur. Ça ne vous fait pas jubiler, ça dit. Sortir de ce Dieu terrible là, qui compte les points, un péché, deux péchés, huit, neuf, dix, out, suivant. On tremble tous. Si je vous le dis bien, c'est que je tremble moi aussi. Et puis non, Jésus béni, non. Nous, les trois personnes, doux et humbles de cœur. Et vous trouverez le repos. Où tu es, Jésus, que j'arrive en courant? Mais je suis là, je te tiens dans mes bras, mon enfant. Si tu dis oui, je te prends dans mon étreinte. Le Père me parle ainsi. Ses deux bras, c'est le Fils et l'Esprit avec lequel il nous sert sur son cœur. Mais le fait que si nous consentons, si nous sommes dans la peur, nous n'avons pas su un esprit de peur, d'esclave, qui nous enferme dans la du Fils qui crie « Abba ». Mais qu'il est long le chemin pour abandonner toutes nos résistances. Il s'adresse à ceux qui poient sous le fardeau. Venez sans peur, dans la confiance. Il nous promet le repos, mais c'est plus qu'un repos, c'est le repos du septième jour, bien sûr, c'est-à-dire la paix, le shalom, cette plénitude de vie. C'est le bien messianique par excellence. C'est la paix, et aussi la tzedaka, la justice, etc. Mais c'est d'abord le shalom, c'est le bien messianique. Oui, c'est Jésus Messie, c'est le roi Messie qui nous promet la paix. Mais ce n'est pas une paix qu'il obtient en triomphant de tous les ennemis dont on a fait du hachis parmentier. Mais non, non. C'est la paix du doux et humble de cœur. C'est vraiment déconcertant. Jésus sait le caractère paradoxal de ce qu'il annonce. Et il va l'annoncer dans des termes qui empruntent justement la première alliance pour aider ses interlocuteurs qui sont juifs à faire le grand passage, à consentir à ce que disait l'ancienne alliance, mais qu'on a perverti parce qu'on y a projeté nos espoirs humains. Ainsi, lorsqu'il entre avant d'entrer dans sa passion, vous savez, c'est l'entrée triomphale avant la passion, il y a d'abord ce paradoxe de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, il va accomplir la prophétie de Zacharie. Jésus dit en Luc 19, « Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. » Étrange mise en scène. Mais les habitués de la Bible savent bien que Jésus fait référence au chapitre 9 de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, le Messie roi, qui vient vers toi. Il est juste et victorieux,
humble et monté sur un âne tout jeune. Vous voyez bien que Jésus accomplit les Écritures, mais vous savez, Origène disait, il n'y a qu'un seul Logos, c'est le Christ, mais c'est déjà lui qui parle à travers toutes les paroles de l'Ancienne Alliance. Encore faut-il avoir le cœur assez libre pour le lire. Humble et monté sur un âne tout jeune, ce roi fera disparaître les chars de guerre, les chevaux du combat, il brisera l'arc des guerres, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'un mer à l'autre et de l'Euphrate à tout l'autre pays. Et oui, c'est un roi qui va briser les armes de guerre, qui triomphe par douceur et humilité. C'est le roi de la paix universelle. Et le caractère sacré de l'animal est noté par le fait qu'il n'a jamais été monté. On offre au temple, on peut offrir un âne, à condition qu'il n'ait jamais été monté et qu'il n'ait jamais porté de joug. Donc Jésus se présente en montant sur l'âne comme le sacrifice sacré qui rétablit la paix. Ce roi pacifiant va instaurer la paix à travers un sacrifice pur et saint, mon Dieu. J'ajoute encore, en hébreu, le mot « âne » est composé des mêmes lettres, dans un ordre différent, pour écrire le mot « matière », « lourdeur », ce que j'appelle l'inertie du péché. Frère âne, comme dirait saint François d'Assise, mais frère âne au sens de l'homme charnel avec tout ce poids des conséquences du péché. Nos désirs terrestres. Alors, lorsque nous lisons en Genèse 22, verset 3, Abraham scella son âne. Au moment où il se met en route vers la montagne où il veut immoler son fils Isaac, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il va sangler sa nature, la partie matérielle de son être. Tout l'espoir qu'il avait mis dans son fils Isaac, tout son amour paternel, toute la possessivité avec laquelle il s'est approprié ce fils. C'est très clair dans le texte en hébreu de Genèse 22. Les termes possessifs sont multipliés avant que Abraham monte sur la montagne. Après, il n'y en a plus. Il a compris. Il s'est approprié les dons de Dieu. Et avec la passion humaine, c'est mon fils, l'héritier, ce qui va y aller. Hein? Dieu doit le faire passer par une catharsis pour qu'il rende cet enfant. Vous avez compris, hein, là-haut, au moment où il veut l'immoler, ses yeux s'ouvrent et il voit un bélier. Le bélier, ce n'est pas l'animal substitutif de l'enfant, ce sera un agneau. Le bélier est l'animal substitutif du père. Abraham comprend. Il sacrifie sa mauvaise paternité trop humaine pour qu'Isaac puisse vivre. Le vrai père, c'est celui qui laisse l'enfant vivre, qui s'en dépossède. Sceller son âne, c'est cela. C'est arriver peu à peu, grâce à l'aide de Dieu, à la maîtrise des sentiments naturels, à passer de sentiments qui sont ambigus parce qu'ils sont mêlés entre le haut et le bas. Abraham, certes, était un fidèle de Dieu. Et sa foi, sa confiance lui a été considérée comme juste, il a l'être aux Hébreux. Mais il devait passer par cette purification pour qu'être collaborateur de Dieu dans l'espérance et pas limiter sur Isaac des espoirs trop humains. Dieu peut faire naître de rien de ses pierres, il peut faire des fils d'Abraham. Alors, dans la tradition juive, qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cela? Que le Messie viendrait monter sur un âne. Je reviens à Zacharie. Ça veut dire, après le détour, de dire l'âne, c'est notre lourdeur. Ça veut dire que le Messie nous donnerait la force, la puissance de Dieu pour maîtriser les convoitises à la nature humaine, pour maîtriser notre avidité de l'avoir, du pouvoir et de la gloire. Vous avez compris que ce sont les trois concupiscences de Saint Jean que je dis ici globalement, pour tout ce qui en nous. Elle vient de la terre et doit être purifiée. Et le Messie vient monter sur un âne signifie qu'il nous donnera la force, nous aussi, de monter, de maîtriser cette partie inférieure d'en bas de notre être pour pouvoir entrer dans l'Alliance, pleinement de pouvoir nous ouvrir à l'espérance qui vient d'en haut.
Là, on est lié à un carrefour. Et Jésus dit de le délier. Là, on est lié comme l'humanité est liée par le péché, comme nous le sommes tous encore partiellement. Mais Jésus donne l'ordre de délier l'âne, dont nous pouvons tous aujourd'hui dire, Seigneur, je prends autorité en ton nom, et dans cette parole, tu as envoyé tes disciples délier cette âne. Eh bien, je prends autorité en ton nom, sur ta royauté messianique, sur le pouvoir que tu as donné à ceux qui croient en toi, de délier l'âne. Je suis lié par ces désirs, délivre-moi, que je puisse pleinement te suivre. Quoi que tu lis sur la terre, dira Jésus après la résurrection, ce sera tenu dans les cieux pour lui. Quoi que tu délies sur la terre, non, c'est encore en Matthieu 16, après la confession de Saint-Pierre, sera délié dans les cieux. Puis il y a le geste d'étendre les manteaux sur le chemin de Jésus, ça aussi c'est un geste d'intronisation royale que l'on retrouve lors du sacre de Jéhu en deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 13, mais je n'insiste pas plus. Et ce geste, ce qui est important de voir, c'est que cette intronisation, donc l'âne, les palmes, hein, je vais le dire un mot, c'est la fête d'Anouka, tout cela c'est des signes par lesquels Jésus confirme qu'il est le roi messianique. Mais n'oublions pas que c'est sur le chemin de la passion qu'il manifeste l'accomplissement de ses signes. C'est donc sur la croix que l'agneau est pleinement le roi messianique, qu'il est vainqueur. C'est un roi qui règne, qui donne la paix en prenant sur lui la condamnation qui reposait sur les pécheurs, qui menaçait les pécheurs. Il la prend sur lui pour que nous soyons justes devant Dieu. La justice de Dieu, c'est de rendre juste ceux qui croient en son Fils. La justice de Dieu, c'est de rendre juste ceux qui accueillent la grâce et la miséricorde qui coule du côté transpercé de l'agneau immolé, de notre roi de gloire, de notre roi couronné. C'est lui, notre Seigneur, qui nous montre ce chemin-là sur lequel nous sommes engagés. Je disais un mot de la fête de Hanouka, allusion aux palmes avec lesquelles on acclame Jésus, fait partie de la fête des tentes. Et effectivement, le psaume, le hosanna que l'on répète sur le passage de Jésus, c'est le psaume 117-118, une allusion claire à cette fête-là. Mais qu'est-ce que c'était la fête des tentes du Hanouka? C'était une allusion au temps de fiançailles du peuple d'Israël avec Dieu. Et les lieux de fiançailles, c'est le désert. On l'a dans Osée aussi, je la conduirai au désert pour la fiancer sur mon cœur. Je mettrai même des roses pour qu'elle ne puisse pas retourner en arrière. Tu es un Dieu jaloux. Il nous veut tout entier pour lui. Mais il y a un passage par le désert, encore une fois, le lieu du dépouillement, de ce qui nous encombre, de ce qui nous pèse, de ce qui nous englue, de ce qui nous colle à la terre, ce qui nous empêche de nous élever. Et de toutes nos complicités avec cette inertie. Passer par le désert pour être libéré, pour que comme un papillon sautant de sa chrysalide, nous puissions nous élancer vers le ciel et en laisser tout le reste. Alors, cette fête, on faisait 7 fois le tour de l'autel des holocaustes en chantant Hosanna. L'autel des holocaustes, la croix de Jésus. Vous voyez, on chante Hosanna, mais c'est en vue. Et on versait de l'eau sur l'autel pour bénir les récoltes, c'est l'eau qui va jaillir du côté du Christ. Mais bon, je ne peux pas me perdre dans les détails. C'est le temps des fiançailles avec Dieu. Notre roi, vainqueur, veut aussi être notre époux. Et là, je retrouve l'Apocalypse, bien sûr. C'est l'époux et nous devons nous préparer. Nous sommes invités à nous préparer à accueillir ce roi époux au cœur de notre vie. On le lit également dans le livre des Maccabées, deuxième livre des Maccabées, au chapitre 10, c'est pourquoi, portant des tirses, de beaux rameaux et des psalmes et des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Le roi, Jésus, va d'ailleurs rentrer dans le temple pour le purifier. Et ce temple, c'est son corps, et ce corps qu'il a pris de nous, qu'il va purifier de fond en comble pour qu'il soit un temple digne de la Trinité. Le roi est aussi le prêtre, celui qui nous purifie, celui qui vient. Je termine encore une dernière allusion. Je viens de dire celui qui vient.
rappeler un Hosanna, celui qui vient. Je vous le dis, je prends le temps de faire ces rapprochements pour que nous voyons l'Ancien et Nouveau Testament, comment ils s'appellent l'un l'autre. C'était bien sûr le Nouveau Testament, c'est une allusion à la proclamation de Jean-Baptiste, voilà qui vient, celui qui est plus fort que moi. Mais c'est aussi la bénédiction de Jacob pour son fils Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient. Que vienne celui qui doit venir, qui a le sceptre, le Messie. Je n'ai plus que 5 minutes, donc je vais sauter d'autres allusions à ce roi et dire juste quelques mots sur le Messie prophète et puis quelques mots sur le Messie prêtre. Pour le Messie prophète, mais forcément celui qui porte la parole, ici Jésus, il fait plus que la porter, il est cette parole, il est le Verbe de Dieu, le Verbe lumière du prologue de Saint Jean. Je pourrais vous lire les chapitres 9 à 17. Que vous connaissez, le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, celle qui tient du Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Je veux simplement insister sur ce ministère prophétique qui est un ministère de lumière pour Jésus. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Lumière et vie. Et effectivement, le prologue dit, en lui, il est la lumière du monde, en lui, en cette lumière, était la vie des hommes. Associer lumière et vie. Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu est lumière. Vous savez que dans la Bible, la parole précède la vision. Je vous le prouve. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a donc parlé avant que la lumière vienne. N'oublions jamais, la parole précède la vision. Nous sommes aveugles parce que nous n'écoutons pas la parole. Nous croyons voir et nous voyons le monde, mais nous nous trompons complètement. Il faut d'abord accueillir la parole parce qu'elle est lumière et vérité. Et c'est elle qui me permet de voir. La parole, la vision sans la parole, c'est Jésus, fils de Joseph. La vision après avoir entendu la parole, c'est Jésus, fils de Dieu. C'est tout le cheminement de l'évangile, le quatrième évangile, l'évangile de Jean. Se laisser éclairer par la parole pour voir en vérité. Il vit et il crut. Celui qui voit la présence dans le tombeau vide, et celui qui s'est laissé illuminer par la parole et qui voit plus loin que le regard de chair, qui voit l'invisible. Dieu veut réveiller nos sens. Mais pour ça, il faut se laisser instruire l'intelligence par la parole de vérité, Romains 12, reformater en quelque sorte, ne plus penser selon le monde, mais penser selon Dieu. 2 Corinthiens, j'amène toute pensée captive du Christ. À ce moment-là, peu à peu, nos yeux s'ouvrent et voient l'invisible lorsque la parole nous dirige. Voilà ce que Jésus, Messie, prophète, veut faire. Une parole qui n'annonce pas simplement un avenir, mais une parole qui m'éclaire dans mon intelligence et me fait voir. Et que je découvre, mais j'étais aveugle. Je n'avais rien compris, rien vu. Je ne pouvais pas. Alors, évidemment, dans notre temps de relativisme, de subjectivisme, ce que je viens de dire et certainement en rupture, où il faut s'ouvrir, tout le monde a sa vérité, etc. Non, nous, si nous avons fait tant soit peu cette expérience de la puissance, de vérité, du Verbe, de cette lumière surnaturelle, pour rien au monde, nous voudrions avoir de l'ombre. Donc nous choisissons radicalement le Christ. Et ce n'est pas de l'intransigeance, c'est suivre fidèlement ce que dit Jésus. Je le disais hier, je suis la vérité, il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin, il n'y en a pas d'autre. Les autres, j'en dis, c'est des voleurs, le bon berger, la porte. J'aime beaucoup l'image de la porte. Pour franchir une porte, il faut s'identifier à la porte. Il faut passer la porte, on devient la porte à un moment donné. Il faut passer par Jésus, il faut s'unir à Jésus. 73 fois dans les lettres de Paul, en Christo. Le chrétien est celui qui vit en Christ, en Christo, qui s'unit à lui. Je suis la poche, je l'ai noté ici.
Alors, le Messie grand prêtre, pardon de mettre ma Bob à cet lieu, mais il faut avancer. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Là, je vais vous renvoyer juste, oh mon Dieu, juste à la lettre aux Hébreux. Hébreux au chapitre 5, 6, 10, qui est vraiment tout ce déploiement de ce sacerdoce du Christ, qui est un sacerdoce nouveau. Et le personnage que l'auteur de la lettre aux Hébreux se réfère, c'est Melchisédek, qui n'est pas un prêtre selon l'ordre de Aaron, c'est autre chose. Et il relie ce passage où, après la victoire d'Abraham, Abraham va au-devant de Melchisédek, dont le nom signifie roi de paix, justement, étonnant comme nom. Et il lui donne la dîme, mais la dîme, c'est ce qui revient à Dieu. En plus, Melchisédek n'a pas d'origine, pas de famille, pas de fin. Un personnage mystérieux, je vais vite vous trouver dans la lettre aux Hébreux, qui est prêtre, il est dénommé comme prêtre, et Abraham lui offre la dîme. Il est en même temps roi de justice, il est prêtre, et il est roi de justice. Et il n'a ni origine ni fin. Donc, il a quelque chose de divin dans ce mystérieux personnage que nous ne voyons plus parce que nous ne savons pas d'où il sort. C'est une pierre d'attente du Messie, roi, prophète et prêtre. Il associe déjà ses différentes fonctions, je devrais dire, et Abraham le reconnaît mystérieusement. Vous savez, dans la prière eucharistique numéro 1, il est cité à chaque fois parce qu'il est sans doute la grande pierre d'attente à la lumière duquel nous pouvons interpréter le sacerdoce du Christ dans la continuité avec l'Ancien Testament. Mais du coup, n'oublions pas aussi, maintenant je fais un saut dans le Nouveau Testament, j'aurais déjà dû le faire pour le prophète et pour le roi aussi, mais reprenons-les ensemble. Est-ce que Jésus est pour moi ce roi de gloire qui, à qui je veux, plein d'humilité certes, mais que je veux qu'il règne en moi radicalement, et auquel je veux me soumettre comme un fidèle disciple, comme ici un fils de son Père, et qui veut moi aussi rentrer dans ses mœurs de Jésus, de douceur et d'humilité. Est-ce que je le veux? Je ne peux pas, c'est tout de suite un peu d'importance. Quid velo est fait, disait Augustin, si tu le veux, le Seigneur l'accomplit. Mais il ne peut pas le faire si je ne le veux pas. Est-ce que Jésus est le prophète? La parole de vérité, l'angle sur ma route qui me guide. Est-ce que Jésus est le grand prêtre qui a donné sa vie pour moi et qui, dans l'Eucharistie chaque jour, offre à nouveau, actualise ce mystère du Golgotha pour moi de manière sans semblante, mais bien réellement, comme dit le Concile de Trente, pour me purifier des péchés que chaque jour je commets à nouveau. Chaque péché brise l'alliance. Et c'est pourquoi j'ai besoin de revenir à l'Eucharistie pour que, de nouveau, je reçoive cette présence réelle de Jésus en moi, que je demeure en lui et lui en moi, pour que je sois justifié devant le Père. Est-ce que je reconnais Jésus comme le grand prêtre en dehors de lui, duquel il n'y a pas de salut? Et puisque Jean-Paul II a employé cette expression, le cœur eucharistique de Jésus, l'Eucharistie, est-elle le cœur brûlant, palpitant d'amour de Jésus pour moi? Est-ce que je peux mettre mon oreille contre le tabernacle pour écouter battre ce cœur? C'est une image, bien sûr. Est-ce que j'ai le désir de consoler le cœur de Jésus en lui offrant le mien? Vous connaissez cette parole de Jésus à Sainte-Marie, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'en reçoit que mépris et indifférence. Alors, aurons-nous à cœur, oui, de consoler le cœur de Jésus en lui disant, mais Seigneur, viens, sois le roi, sois le maître, sois le Seigneur de ma vie. C'est ma volonté fermement établie. Je veux que tu demeures en moi pour que je demeure en toi pour le temps et l'éternité. Amen.